Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Bienvenue dans les vraies voix qui sont aujourd'hui en mode Fernandel, puisque l'immense acteur et chanteur nous a quittés il y a 50 ans aujourd'hui. C'était le 26 février 1971. Et les vraies voix, et vous allez voir, c'est vraiment une évidence, ont toutes quelque chose de Fernandel ou d'actrice qui ont joué avec Fernandel. Philippe Bilger a un côté Don Camillo quand il prépare un débat des vraies voix. On a même d'ailleurs enregistré les propos qu'il tient avant de débattre.
Jésus, je le pulvérise.
Il n'en est pas question. J'ai pardonné et tu dois pardonner aussi.
Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose.
Ça vous va bien, Philippe Bilger? Je le pulvérise.
J'adore Don Camillo, mais qui sera Pépone?
Bonne question, en tout cas pas moi. Caroline Grima est une superbe brune, comme Claire Maurier, devenue la femme de Bourvil après avoir été celle de Fernandel dans La Cuisine au beurre, film dans lequel elle ouvre la boîte à gifles.
T'as apporté des fleurs, hein?
Hein? Ils sont jolis ces fleurs, et puis alors, ça me tombe bon.
Ça c'est gentil.
Ok, faut l'embrasser, tu sais, le passé est mort.
Tu peux l'embrasser aussi, hein? Il s'en est donné du mal.
Attends, Fernand, puisqu'Amré le permet... Bien que je te fasse
et
la vie.
Voilà.
Bien, voilà pour la Sibérie.
Mais ça fait mal.
Les mines
pourquoi
de sel.
Pourquoi tu m'as frappé comme ça?
Bien, continuez.
Vous rappelez cette scène mythique à la fin de La Cuisine au beurre où Gerda, la maîtresse autrichienne de Fernandel, arrive dans le restaurant et que ça vous va?
Ça me va. Ah,
c'est
très
une
bien.
Belle femme, Claire Maurier.
Absolument.
Sa blondeur la fait ressembler à la superbe Oran de Mazis. Elle aurait donc pu tourner dans le Schpoons avec Fernandel. D'ailleurs, elle aussi. C'est ouvrir la boîte à gifles, on écoute.
C'est vrai que vous êtes idiot.
Oh que non.
Oh que si.
Oh que non. Voyez-vous la fine mouche là? On peut dire que vous savez les prendre les devants vous. Et vous arrivez toujours bonne première. Oh, la petite coquine. Qu'est-ce que c'est?
Mais c'est une gifle.
Vous croyez?
Mais excusez-moi si j'ai frappé un peu fort. Mais ce contrat, c'était une farce stupide. Ce contrat est une plaisanterie.
Ça vous va le Schpoons?
Parfait.
Alors merci, vous aimiez Fernandel tous les trois?
Oui. Ah ouais. Quel talent.
Ah, j'aimais beaucoup Fernandel, bien sûr.
Vous préfériez plutôt l'acteur ou le chanteur?
Ah, moi, j'avais vraiment, vraiment une préférence pour le chanteur.
Ah oui,
ah, c'est vrai? Ah oui.
Ah, le tango corse, par exemple, ça ne s'invente pas.
Il y avait quelque chose d'extraordinaire.
Et Félicie m'a dit...
Ah oui,
Félicie aussi.
Hein.
Félicie aussi, ouais, mais je n'ai pas voulu embrayer d'emblée sur le registre que vous aimez trop, Philippe.
Mais vous me connaissez très mal. Il y a un film que vous aimez de Fernandel, tiens, en particulier?
Bah la cuisine au beurre, oui, je pense que c'était c'est assez représentatif.
Et puis la vache et le prisonnier.
Et
la vache et le prisonnier,
oui. Culte, hein.
Ça m'a quasiment fait pleurer.
La vache,
ce qui m'arrive
rarement
dans la vie.
Ah oui. Et puis il y a des films cultes, les films de Pagnol, notamment avec Oral de Mazis, Regain notamment. Après, c'était pas Pagnol, je crois, mais Le Schpoons, etc.
Jeannot
aussi. Ouais. Absolument. Mm. Topaz, etc.
Ouais.
C'était quand même un extraordinaire acteur.
Très
et il nous a quittés il y a 50 ans aujourd'hui. On a bien sûr Jean-Marie Bordry au Roi de l'Info. Au clin d'œil et aux réseaux sociaux, Jamel à la Réa et Manu au Standard. Je voudrais faire un petit coucou à Nadine qui nous écoute, qui s'occupe de personnes âgées. Elle nous a envoyé une vidéo très sympathique d'une personne dont elle s'occupe, qui est malvoyante et qui lui dit « Ah bah écoutez, ça j'arrive encore à mettre Sud Radio sur la radio. » Alors je voulais faire, au nom de toute l'équipe de Sud Radio et de toute la bande des vraies voix, bien évidemment, la bise à Nadine et à cette dame qui nous écoute probablement en ce moment avec cette vidéo que j'ai envoyée à toute l'équipe de Sud Radio qui est très touchante. On vous embrasse.
Une grosse bise.
Et merci de votre fidélité au poste. Caroline,
énorme
ça va vous toucher.
Ça me touche doublement. Il y a énormément de personnes malvoyantes et aveugles qui nous écoutent parce que forcément, la radio est un vecteur extraordinaire pour sortir de la solitude et de l'isolement. On a le numérique avec les nouvelles applications, l'high-tech a vraiment révolutionné notre quotidien, mais on est tous addicts en priorité à la radio plus que à la télé. Hein.
Et je pense à une autre auditrice malvoyante de l'Haute-Garonne qu'on salue, qui s'appelle Anne-Marie, qui est une fidèle parmi les fidèles de Sud Radio également. Allez, nos trois débats du jour à 17h30, Rix Centre-Bande, le commissariat de Sarcelles, c'est pas très loin de chez vous, ça.
Absolument.
Je crois, ma chère Caroline Grima. Attaqué au mortier la nuit dernière, Gérald Darmanin peut-il rétablir l'ordre? À 17h40, on va prendre la direction de la Syrie. Vous avez vu, j'ai fait le commandant Sylvestre chez Trina en tweetant. Bombardement américain sur la Syrie. Joe Biden est-il plus va-t-en-guerre que Donald Trump? On n'entend plus beaucoup les partisans de Biden qui disaient que Trump était un va-t-en-guerre et un fou depuis cette nuit. Enfin, à 18h30, c'est une tribune qui fait le buzz dans le Figaro. Il y a notamment Virginie Calmel, Laurent Papy qui sera avec nous. Est-ce qu'on n'a pas brogné trop gravement nos libertés au nom de la lutte contre la pandémie ? Le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés ? Vous voulez réagir, vous le connaissez, le 0826-300-300, ça c'est le numéro, et les réseaux sociaux, en particulier Twitter, comment vont les VV en ce dernier vendredi du mois de février ? Philippe Bilger, je vous sens printanier.
Printanier, pas encore, mais enfin, j'attends beaucoup du dialogue avec Caroline, et les deux Caroline, si j'ose dire, et avec vous, Philippe, animateur, je le dis d'emblée, hein, pour régler le problème, tout à fait exceptionnel.
Oh bah écoutez, moi je commence la flagornerie d'habitude à 17h15, vous commencez à 17h09, voilà. C'est donc 5 minutes plus tard.
Non, non, mais comme ça, je serai plus obligé de la refaire. Hein.
Les deux Caroline, ça va ?
Ben ça va très bien, écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver, et puis je suis surtout très heureuse de débattre pour la première fois avec mon alter ego mon homonyme, Caroline Pilastre. Je suis ravie de pouvoir partager cette émission avec elle et avec vous.
Voilà. Vraiment Caroline, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire une émission ensemble, et puis la parité est respectée,
absolument.
J'ai envie de vous dire, messieurs les
de manière
Philippe,
absolument, absolument
hein.
Stricte.
Bon. Sans oublier de jamais les Jean-Marie, bien évidemment, vous ne voudrez pas
absolument.
Les mettre à l'écart, ces messieurs.
Oui,
bon,
Philippe.
Caroline, je peux me retirer sans problème. Hein. Bon,
mais pas du tout, mon cher Philippe, au contraire.
Non, Philippe, ne vous retirez jamais.
Vous me manquiez, Philippe.
J'avais le sentiment que mon adorable Caroline Pilastre aurait voulu rester uniquement avec vous.
Pas du tout, on vous aime. Allez, ça y est.
Allez, ça vous dirait, les amis, un petit tour de table de l'actualité.
Évidemment.
Eh bien, c'est parti.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous me racontez pas votre petite journée ?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table.
De l'actualité.
Dans un restaurant vide où les mouches se taisent, j'aime entendre l'écho des phrases refroidies.
Ah tiens, un bordelais, vous qui êtes... qui connaissait bien le bassin d'Arcachon, ma chère Caroline Grima. Mais là, c'est Caroline Pilastre qui veut nous parler d'un tablier solidaire. Je ne rends pas mon tablier pour venir en aide aux restaurateurs.
Oui, tout à fait. Je voulais absolument revenir sur cette initiative solidaire qui s'appelle donc Je ne rends pas mon tablier, qui est un mouvement qui a été initié par des associations de restaurateurs pour leur venir en aide, parce qu'évidemment les restaurateurs en ce moment sont en détresse. Et vous avez donc ce collectif qui est également... soutenu par des grands chefs qui met en vente un tablier qui coûte 35 euros, qui est fabriqué en France et dont tous les bénéfices sont reversés aux associations de restaurateurs pour les aider à maintenir un peu la tête hors de l'eau, et surtout à prévoir l'après, parce qu'on sait qu'ils sont dans une situation compliquée. Ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont pas de perspective d'avenir non plus, quand ils pourront rouvrir. Donc je trouvais que cette levée de fonds était une belle initiative qu'il fallait mettre en lumière ce soir.
Belle initiative, Philippe Bilger.
Ah oui, en effet, tout ce qui est généreux, et j'allais le dire en riant, qui est le fait des autres, a mon assentiment absolu.
Caroline Grima, c'est vrai que on en a discuté lorsque vous étiez à l'accueil avant le début de l'émission. On est tous en manque de restaurants, de convivialité, de bars, de boire un verre, de zinc, de tout ça, non ?
Nos restaurateurs nous manquent. Le contact qu'on pouvait avoir avec eux, leur manière de décrire leur travail, la fidélité qu'ils pouvaient instaurer dans leurs établissements qui faisait qu'on y venait, on y revenait, on avait plaisir à discuter avec eux, etc. Et je trouve que, moi je voudrais saluer à la fois cette initiative parce que je la trouve extrêmement intéressante, mais je voudrais aussi saluer le grand courage et la grande mesure dont ils font preuve. Parce que je les trouve d'un stoïcisme, d'une patience absolument exemplaire. On a entendu parler ça et là de quelques initiatives un petit peu rebelles par rapport à...
Mais c'est sporadique.
Mais ça reste quand même extrêmement limité. Et puis... disons-le, compréhensible. Mais dans leur immense majorité, ils ont été parfaitement capables d'innover, de faire en sorte d'essayer de continuer à exercer leur art, parce que c'est tout de même un art, la gastronomie en France particulièrement. Et je trouve que c'est à saluer. Voilà, ils sont à la fois extrêmement disciplinés, innovateurs et très patients. Et voilà, et on espère qu'une chose, c'est que leur calvaire se termine enfin.
Oui, Caroline
et puis,
Grima.
C'est vrai
Caroline
que...
Pilastre.
C'est pas grave.
Tu vas beaucoup de
à mon avis, c'est pas la première fois.
Appelle Caroline, ça sera plus simple. Non, mais c'est vrai ce que tu disais, Caroline. Et je te donne entièrement raison. Et quand on parlait de désobéissance civile pour certains d'entre eux, c'était pas vraiment ça. En fait, c'est de la résignation. Ils voulaient médiatiser leur
Bien
combat,
sûr.
Leur détresse.
Leur désarroi.
Et le fait que ce soit soutenu par des grands chefs qui s'appellent les haut-parleurs, justement, pour mettre ça en avant sur les réseaux sociaux et rendre ça visible pour que les gens prennent conscience de la difficulté. On sait très bien qu'on vit, on ne le dira jamais assez, un marasme sanitaire, économique. Mais c'est vrai que ces restaurateurs ont fait tellement d'efforts, ces bistrotiers, ces restaurateurs, pour mettre en place le protocole sanitaire.
Bien
Rappelez-vous, entre les deux confinements, ils ont quand même fait des investissements. Ils ont mis des plexis dans leur restaurant.
Oui.
On a décidé
ils ont fait tout
de
ce qu'on
refermer
leur a dit, hein.
tout ce qu'on leur a dit pour, à l'arrivée, ne pas savoir si, comme on le disait à la fin de l'année, au printemps, ils pourraient rouvrir. Donc je trouve que cette initiative est formidable. Formidable, mais elle est terrible aussi en termes de résilience.
Philippe Bilger.
Mais que puis-je ajouter de plus à ces
vous
paroles
serez...
tellement sages de
Vous aussi, vous
amis.
Êtes en manque de restaurants, de bars, de convivialité
En manque de restaurants, c'est clair. Deux choses me manquent, même si le confinement ne change pas radicalement ma vie, c'est le restaurant et le cinéma. Ça, c'est clair que plusieurs fois, j'ai eu des réflexes quand je quittais les vraies voies ou d'autres endroits. Je me disais, tiens, maintenant, on va aller au restaurant. Et tout à coup, je me rappelais qu'ils étaient fermés. C'est un vrai drame pour eux et pour nous.
Je vais te donner un scoop parce que Philippe Bilger m'a envoyé un texto pendant qu'on parlait. Il m'a dit, je serais prêt à faire un restaurant.
Non.
Même avec les deux
Caroline,
vous voyez à quel point j'en suis.
Non.
Donc...
Surtout avec les deux Caroline, j'ai envie de vous dire, mon cher Philippe, avec plaisir.
Comment pouvez-vous laisser croire à une chose qui n'est pas plausible ?
Moi,
en général, je serais beaucoup plus grossier en parlant avec vous.
Moi, Philippe Bilger, il y a une troisième chose qui me manque. On a ces deux points communs, des restaurants et des cinémas, mais c'est surtout votre
présence, Macaro.
Votre présence en studio.
Ah oui.
Ah mais oui.
Mais
et,
oui.
Et que dites-vous ? Je risquerais d'être trop tactile avec vous, ma chère Caroline.
Comme
on
disait,
a besoin de tactile.
Comme
en
disait
ce moment,
un certain commentateur
vraiment.
De football qu'on regrette, ça ne nous regarde pas.
Non vous mais êtes... le partage et la convivialité, c'est ça qui nous manque.
Ça oui. C'est vrai. Vous êtes bien dans les vraies voix. Il est 17h16, les vraies voix avec Philippe Bilger et les deux Carolines, Caroline Grima et Caroline Pilastre. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio, 17h19h, Philippe David.
Vous reconnaissez Michel Delpech.
Michel Delpech.
Regretté Michel Delpech, qui nous a quitté il y a 5
voix.
Ans, je crois, le 2 janvier 2016, il me semble.
Oui.
Grand artiste. Et vous voulez parler, alors la chanson était de circonstance,
De
la baisse de la natalité.
Oui, absolument, parce que on nous avait promis une explosion de la natalité en raison du premier confinement et qui était censé favoriser les rapprochements. Alors c'était selon, parce qu'on nous avait aussi promis une explosion des procédures de divorce, qui ne sont pas forcément arrivées non plus. Mais plus sérieusement, on a constaté en comparaison entre janvier 2020 et janvier 2021, une baisse de 13% des naissances en France, qui est une baisse absolument historique et qu'on n'avait pas vu, en tout cas de façon aussi grave depuis la fin de la guerre de 45. Donc c'est vraiment très 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 spectaculaire. Alors au-delà de cette constatation qu'on peut-être lié à la problématique du Covid et puis des incertitudes liées à l'avenir qui se profile et puis qui est quand même particulièrement flou et, et semé d'embûches et d'incertitudes, on peut quand même pointer le doigt sur les problématiques que cette situation va générer à moyen et long terme, puisque sur le plan économique, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes en termes de PIB et donc en termes de baisse de niveau de vie, en termes évidemment de financement des retraites et de l'avenir des seniors. Donc tout ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et on ne peut que difficilement imaginer que les choses évoluent favorablement dans les mois qui viennent, puisque, encore une fois, je crois que les Français sont dans une position et dans une situation d'incertitude, de crainte par rapport à l'avenir et qui peut-être va se prolonger. prolongée de façon assez durable.
Philippe Bilger, vous attendiez, tout le monde nous disait qu'avec les couples enfermés pendant 2 mois chez eux, la natalité allait exploser à partir de 9 mois suivant le début du confinement. Patatras, il n'en est rien.
Mais on pouvait le penser, en effet, Philippe, et moi-même je suis surpris parce que j'aurais pu penser que une forme de plaisir intense aurait pu compenser une détresse au quotidien. Mais c'est pas le cas et alors je ferai un reproche, pardon, de tomber dans une forme d'ironie après l'expression très sérieuse de notre chère Caroline Grima. Je reprocherai à Jamel de n'avoir pas mis Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule, et à un moment donné, Philippe, j'ai presque eu peur que vous fassiez vos plaisanteries habituelles quand Caroline a dit « je pointe du doigt ». J'ai eu très peur, mais vous avez été impeccable.
Alors, de deux choses, Luc. Déjà, un, je vais donner l'absolution à Jamel, parce que c'est moi qui ai eu l'idée de la chanson de Michel Delpech « Fais un bébé », n'est-ce pas, Jamel
aussi.
Et deuxièmement, excusez-moi, vous qui qui sous-entendez que je pourrais faire descendre le débat sous de la ceinture, c'est la poêle qui se moque du chaudron, soit dit en passant.
Non, mais c'est déjà fait.
Caroline.
Non, mais par moment, mon cher Philippe, j'essaye de créer une synthèse entre une forme des vraies voix que je n'aimais pas du tout et parfois les vraies voix qui, grâce à nos deux amis IES et expression inclusive, deviennent infiniment sérieuses.
Caroline. Non, mais monsieur Bilger, quand même, petite parenthèse, vous êtes taquin et coquin ce soir. En fait, vous cherchez le grand Philippe David pour qu'il soit un peu plus potache qu'habituellement. C'est vous, hein?
Mais bien sûr,
qui mettait la charrue avant les bœufs. Hein.
Mais bien sûr, j'ai besoin qu'il délire un peu, quoi.
Justement,
on a besoin de... Oui, non, pour en revenir au sujet sérieux.
C'est
hein,
vrai que
présenté
on
par
nous
Caroline.
Disait que la natalité allait exploser comme après la 9 mois après
c'est
la fameuse coupure de courant à New York. C'était il y a 50
et
ans.
Ça n'est pas le
et
cas.
Patatras. Et puis là, c'était pas une coupure de courant qui a duré une nuit, ça a été un confinement qui a duré 2 mois.
Et oui, hein, et
plus
j'ai été
mois.
Une des premières aussi à me tromper sur le sujet. J'en avais fait une chronique l'année dernière, puisque quand on avait des chiffres provenant de la Chine, des États-Unis, tout le monde parler d'une explosion de la natalité, parce qu'évidemment, à huis clos, et voulant profiter un petit peu de l'un de l'autre quand les couples s'entendaient. A contrario, il y avait aussi tous ceux qui ne pouvaient plus supporter qu'elle ait divorcé. Hein. Donc, il y avait vraiment cette ambivalence. Mais c'est vrai que si on prend les choses pragmatiquement parlant, les gens ont peur de l'avenir. Mmh. On ne sait pas de quoi demain sera fait économiquement. Professionnellement, encore plus que d'habitude, où on a toujours été dans une crise malheureusement depuis plusieurs années. Mais là, toutes les personnes qui sont indépendantes, commerçantes, les entrepreneurs, enfin, vous n'allez pas leur parler de bébés et de choses joyeuses, sachant qu'ils ne savent pas demain s'ils pourront assurer un minimum le fait de manger
payer
ou payer
logement.
Leur loyer, quoi, tout simplement.
Oui.
Oui, il y a une véritable incertitude au niveau de l'avenir. L'avenir pour les parents, mais l'avenir pour les enfants auxquels on songe en se disant, mais est-ce bien raisonnable, moi je l'entends très régulièrement ce discours, est-ce bien raisonnable d'avoir des enfants dans une période aussi, effectivement, aussi anxiogène, aussi
alors
complexe.
Là, Caroline, je le discute absolument, mais c'est sûr, vous l'avez entendu, je ne le discute pas, mais j'ai entendu ça depuis des années, je me rappelle par exemple des gens dans les reportages télévisés qui disaient je ferai un enfant ou deux parce que la caravane ne permet d'en mettre que 2. J'ai toujours eu ce sentiment que l'amour d'enfant était une telle richesse dans la vie que finalement il était un peu mesquin de raisonner exclusivement, je dis bien, par motif économique. Vous voyez, j'ai introduit un peu de contradiction.
Mais pas seulement économique, Philippe. Il n'y a pas que cet aspect-là. On en parlera tout à l'heure, justement, dans le débat relatif à la préservation des libertés individuelles, etc. Sur le plan strictement humain, éthique, moral. Je crois qu'on est dans une période de très grands bouleversements à plein de niveaux. Et si on s'éloigne un petit peu de la sphère strictement économique, il y a quand même aussi lieu de s'inquiéter pour l'avenir de nos enfants. Je pense que tout n'est pas rose, indépendamment de la problématique financière et économique.
Mais est-ce que vous croyez...
Alors là, je suis beaucoup plus optimiste que vous, Caroline.
C'est vrai.
Parce que peut-être
tant
c'est
mieux.
Mon tempérament. Non, mais je veux dire, pardon, je le dis, j'espère, sans vous offenser, à quoi ça rime en permanence d'avoir de l'inquiétude pour l'avenir. De toute manière, on ne va pas faire disparaître nos enfants, pas plus qu'on ne va disparaître nous-mêmes. On ne peut que leur souhaiter une énergie dans la vie. Et ils sauront surmonter les obstacles comme nous on l'a fait. Là, j'ai une espèce d'optimisme de l'action qui fait que j'introduis peut-être un peu de béatitude dans un climat.
Mais moi, je suis ravie, votre optimisme me rassure, Philippe.
Non, mais concernant la conception, c'est vrai que les couples qui ont du mal à se projeter, les enfants qui sont présents, évidemment, on fait avec, comme tout le monde. J'ai envie de vous dire, les générations précédentes ont vécu deux guerres, donc c'était bien pire que ce qu'on est en train de vivre actuellement.
La génération précédente est précédente, les deux guerres. Tout à fait, beaucoup plus ancien. Ouais.
Évidemment, donc là, en termes de sacrifice, ça n'a rien à voir avec le fait que la majorité d'entre nous, nous regardons quand même le nombril par rapport à nos activités, notre manque de liberté, qu'on peut mettre entre parenthèses par rapport à ces périodes. Mais c'est vrai que quand vous êtes un jeune couple, en plus quand vous habitez dans des grandes villes, où la vie est quand même onéreuse, on réfléchit à deux fois, parce que en dehors de vouloir avoir un enfant, parce que c'est aussi une projection de couple familial, quelle qu'elle soit, quand vous n'avez pas les moyens et que vous ne savez pas de quoi, je le redis, demain sera fait, je trouve que c'est assez réaliste et raisonnable en ce moment.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h27, dans quelques instants, notre premier débat dans Les Vraies Voix. Rix, bande commissariat attaquée, Darmanin peut-il rétablir l'ordre? Et bien pour le moment, sur Twitter, vous êtes 92% à dire non. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
70% de ceux qui composent ces bandes sont des mineurs.
Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe?
Les oreilles!
La langue! Le terrain!
Le travail des policiers en ce moment même confinera les personnes qui sont responsables de ces actes de cruauté devant des tribunaux.
Je suis pas la trouille, moi! Je m'en fous!
Et nous l'espérons avec des condamnations.
Ah bah la vie, si j'aurais su, j'aurais
pourvu. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
La banlieue, c'est pas rose.
La banlieue, c'est morose.
Alors, prends-toi en main. C'est ton destin.
C'est ton destin.
Vous avez reconnu les inconnus après la guerre des boutons. Ça, c'est le génie de Jamel pour ses montages sons. Et évidemment, Gérald Darmanin. Le commissariat de Sarcelles a été attaqué au mortier hier soir par une trentaine de jeunes. L'attaque a duré une demi-heure. Heureusement, personne n'a été blessé. Cette semaine a aussi été touchée par plusieurs rixes dans l'Essonne. 3 avec 2 collégiens qui ont été tués, 1 troisième blessé. Les violences dans les quartiers se multiplient, les violences contre les policiers aussi. Rixes entre bandes, commissariat de Sarcelles attaqué, Darmanin peut-il rétablir l'ordre? Et pour le moment, vous êtes 92% à dire non. Caroline Grimat, tiens, c'est votre département, Sarcelles. On va prendre la direction de Sarcelles. Vous connaissez bien l'endroit. Qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics pour rétablir l'ordre dans ces banlieues ?
Le travail à accomplir, il est colossal et le retard qui a été pris est colossal également. C'est une question qui est... Moi, je vous avoue que je suis toujours très partagée entre ma vision de professionnel du droit, d'avocat, et puis ma vision de citoyen. Et parfois, j'avoue qu'elle ne se recoupe pas forcément. Lorsque je réfléchis en tant qu'avocat, je pense moyen, je pense éducatif, je pense prévention. Et puis, lorsque je raisonne en tant que citoyenne, qui a envie d'être au calme, de pouvoir vivre tranquillement dans son département, puisque le Val-d'Oise, c'est un très beau département. Je raisonne un peu différemment et j'avoue que parfois je me sens un peu... j'ai l'impression qu'il est presque trop tard en réalité pour agir. Et je comprends les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux par rapport à cette question.
On est passé à 93 là, à l'instant.
93%. Oui, mais je comprends ça. Je comprends cette vision que les gens ont qui est extrêmement pessimiste de la situation parce que nous payons des années, des décennies d'indifférence, de laxisme, de sous-évaluation de la gravité de la situation. Et aujourd'hui, le boomerang revient très fort et le prix à payer, il est extrêmement cher. Et je ne vois pas trop comment... J'entends les paroles qui sont prononcées par le ministre de l'Intérieur, mais Concrètement, le travail, encore une fois, il est colossal. Il est colossal et il n'est pas prêt d'être mis en place, d'après ce que je vois sur le terrain.
Après la défense, l'accusation, monsieur l'avocat général, et après on aura bien sûr Caroline Pilastre, on ira au 0826-300-300. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de Caroline ? Vous avez commencé, je crois, en banlieue, dans la Seine-Saint-Denis, il me semble.
Voilà, mais je serais non pas plus intelligent, c'est impossible, mais probablement, non je le pense Caroline, plus, il faut que je me souvienne que je dois être féministe, hein, tout de même, mais sérieusement, d'abord je vous remercie Caroline pour votre honnêteté d'avoir dit que vous pouviez être clivée entre la citoyenne et l'avocate. Moi, ça n'est pas le cas, je suis réactionnaire dans ce domaine en tant que bilgère et en tant qu'avocat général hier et peut-être encore plus comme citoyen aujourd'hui. Ceci étant dit, j'avais formé beaucoup d'espoir sur Gérald Darmanin à l'origine parce qu'au fond, il bénéficiait d'une comparaison facile avec son prédécesseur. Et de fait, dans les débuts, il m'a semblé ressembler à un ministre de l'Intérieur qui pouvait nous laisser espérer beaucoup de choses. Et puis en regardant, il y a beaucoup de tweets, beaucoup de discours volontaristes, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses, beaucoup de découvertes de situations qui sont connues de toute éternité. Et donc, je commence singulièrement à me défriser à son sujet. Mais pour revenir au thème que vous avez évoqué, bien sûr, il ne pourrait même pas éradiquer tout cela parce que ce qui se passe à l'heure actuelle est d'abord en effet une dégradation de très longue durée et ensuite c'est la coalition de défaillances familiales, de défaillances de familles décomposées, de défaillances scolaires, de défaillances judiciaires, de défaillances policières, de défaillances de toute nature et donc ça prendra un temps fou pour les réparer si on y parvient. Tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, me semble-t-il, et là je retombe dans la rigueur, c'est qu'on ait enfin une philosophie pénale pour les mineurs qui soit digne de ce nom. Il faut faire partir l'éducatif en grande partie par la porte pour faire rentrer par la fenêtre une forme de répression parce qu'on n'a plus des mineurs comme en 1945. Ils sont de plus en plus précoces dans la violence, évidemment de plus en plus dangereux.
Caroline Pilastre, vous avez un côté comme Caroline Grima, mère Noël et mère Fouettard à la fois, ou plutôt comme Philippe Bilger, père Fouettard.
Oh, je dirais un
en
mix
tout
des
cas,
deux,
pas pauvre Pilastre, hein, certainement pas.
Non,
parce que Caroline, elle dit toujours ce qu'elle pense. Hein.
Non, mais je vais faire une synthèse de vous deux. Évidemment que vous avez raison.
Oula.
Mais ces individus, de toute manière, sont en défiance permanente contre la police, contre la justice, contre le régalien en règle générale. Quand vous allez sur leur territoire, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses, nous sommes régulièrement dans un état de non-droit. Eux estiment que vous venez les défier chez eux. Donc, ils ne le supportent pas. Les valeurs de la France, les valeurs de la République, appelez ça comme vous voulez, ils s'en contrefichent. Moi, j'aimerais que cette société soit pacifiée, bien évidemment, que je rêve que toutes les personnes qui ont majorité respectent les lois de la France dans ces quartiers, vivent tranquillement. Mais malheureusement, comment voulez-vous faire quand vous avez des bandes rivales qui régulièrement sont dans une surenchère de violence, parce que les rixes existent depuis 40 ans.
Quand même deux morts cette semaine.
Oui, et puis la violence, de toute manière, elle est accrue. Il y a aussi la question du trafic de drogue, à ne pas prendre à la légère. J'en ai marre que la justice, régulièrement, trouve, pardonnez-moi Caroline et Philippe, mais des justifications. Non, ça n'est pas parce que vous avez des problèmes de fin de mois, que vous pouvez potentiellement être dans la misère, que vous n'avez pas de papa, que vous êtes forcément un mauvais citoyen. Moi, je trouve que c'est extrêmement insultant vis-à-vis des gens paupérisés, précaires, qui essayent d'élever bien leurs enfants, leur donnant un cadre. Et vous avez plein de familles monoparentales qui arrivent à s'en sortir parce que, justement, on vous donne une éducation et ça part de là. Mais il faut que la justice et l'État suivent. Et ça fait 40 ans que pour des raisons d'opportunisme électoral, on ferme les yeux sur ces questions. Et quand on le rappelle, évidemment, on est un méchant ou tout simplement, de manière réductrice et simpliste, on est traité de facho. Oui. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour reprendre un peu la main sur ces territoires, il faut que la justice envoie des messages forts et fermes et qu'il n'y ait plus de laxisme et le fameux les pauvres, on trouve des excuses régulièrement. Moi, j'en ai marre de ça.
Et le département le plus pauvre de France par habitant de mémoire, c'est la Creuse et le commissariat de Guéret n'a jamais, ou de la Souterraine, n'ont jamais été attaqués à ce que je sache, ou la gendarmerie. Direction Mont-de-Marsan, bonsoir Abdelhak.
Bonsoir Sud Radio.
Le très beau département des Landes. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mont-de-Marsan, c'est calme.
L'un des plus beaux départements de France. Et je le pense vraiment parce que 99% des militaires qui viennent travailler ici refusent de devenir officiers, je fais une parenthèse, refusent les écoles d'officiers pour ne pas avoir à déménager. Pour vous dire, tellement c'est prochain.
C'est sûr. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez
Pour revenir au sujet, alors là où je suis très déçu de tous les interlocuteurs que j'ai entendus, vous, je trouve ça plutôt dégueulasse, vous généralisez. C'est 0,1% et même pas. C'est-à-dire, je peux même l'estimer. J'étais le plus grand directeur de centre de vacances en France, donc je sais de quoi je cause. J'ai eu des gamins de 20 ans gardés dans les centres de loisirs, j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu des facilités, je suis maghrébin, voilà, donc il y a un autre respect, une autre autorité, voilà, c'est différent, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais ce qui est grave, c'est que vous êtes en train de parler d'une population qui habite dans des quartiers et que vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous savez, 99,99% des gens qui vivent dans les quartiers, ils n'ont rien à voir avec les 20 ou 30 branleurs qui vont mettre le feu.
Ah mais ça, c'est une certitude.
Oui, voilà. Mais oui, mais quand que les interlocuteurs d'avant, quand ils en parlent, enfin, je mets à la place des citoyens qui est en train d'écouter à la radio, on est en train de parler de tous les gens qui sont dans les quartiers. Mais dans les quartiers, il y a des ingénieurs dont on ne parle jamais, des médecins, il y a des gens qui sont devenus entrepreneurs comme moi. Il y en a plein même d'entrepreneurs et qui sont super contents de payer leurs impôts en France et d'y vivre surtout. Et là, vous mélangez tout. Vous savez, les gamins qui, ça restera des gamins et ça sera toujours de gamins. C'est nos gamins en plus qui c'est branle l'heure, entre guillemets, c'est voilà, il faut, il y a eu la police de proximité qui n'existe plus. On a enlevé...
Je vous Sarkozy, coupe, ça a été supprimé par Nicolas Sarkozy. Enfin, Nicolas Sarkozy, version ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait la version ministre de l'Intérieur et la version président de la République.
Avec toutes les
je vous redonne la parole.
Karcher, etc., ouais, avec toutes les histoires de Karcher qui avaient existé et tout. Vous savez, il y a besoin d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 personnes selon la structure, selon la cité ou le lieu, en tout cas, de vie. Parce que je déteste le mot cité. Il faut que ces personnes-là, ces policiers qu'il y avait, ça permettait de repérer quels étaient les animaux blessés et qui devenaient des loups, en fait, parce que c'est quand ils sont à 3, 4, 5 animaux blessés que les loups deviennent dangereux. Et voilà, c'est l'effet de masse qui fait ça. Et là, pour les repérer, il y a besoin des gens qui représentent, comme fait avec nos impôts, des fonctionnaires de l'État, qui font leur boulot de repérage et tout. Et le travail, c'est prévenir. On ne peut pas se mettre à chialer et dire qu'il n'y a plus aucune solution. J'entends Madame l'avocate et je respecte. Et voilà, mais moi, c'est le tableau d'or le plus complet que j'ai entendu.
Abdelhak, Philippe Bilger veut vous répondre, mais rapidement, ouais. Philippe Bilger, parce qu'on va passer après au second débat.
Bien sûr, Abdelhak, on a la chance de vous entendre assez souvent sur Sud Radio et je vous adore parce que vous ne me surprenez jamais, c'est formidable. Deuxième élément, où allez-vous chercher que nos amis en plateau et moi-même, nous n'avons pas compris qu'il y a une multitude d'honnêtes gens et d'honnêtes citoyens dans ces quartiers.
La très grande majorité.
Mais bien sûr,
qui veulent être tranquilles. C'est tellement évident que cette population dans les quartiers, puisqu'ils subissent les rodéos et compagnie.
Nous parlons des bandes, des rixes qui ont eu lieu. Et là, je n'ai aucun scrupule à confirmer que probablement dans ces bandes, il y a un certain nombre de voyous et d'autres jeunes gens égarés. Mais on ne parle pas de la multitude des gens qui se comportent honorablement dans les cités ou les quartiers.
Merci beaucoup, Abdelhak de Mont-de-Marsan. Moi, quand je pense à Mont-de-Marsan, je pense forêt landaise, plage landaise.
Parce
que vous aimez le rugby, moi aussi, les frères Boniface, ouais. Lacroix aussi,
vous
par exemple.
Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas.
Si, c'était pas ma génération, mais je connais
vous
quand
n'étiez
même.
Pas né.
Non, je n'étais pas né. Merci beaucoup, Abdelhak, et on salue toutes les Landaises et tous les Landais. Verdict sur Twitter, vous êtes 93% à dire que Darmanin ne peut pas rétablir l'ordre.
Les vraies voix Sud Radio.
Vous avez reconnu l'hymne américain ? À peine plus d'un mois après l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, l'armée américaine a bombardé des milices pro-iraniennes en Syrie hier. Première attaque américaine sous l'ère Biden. Alors c'est vrai que sous Donald Trump, il y a eu aussi des bombardements dans la zone syrienne. Mais ces attaques ont eu lieu après des échecs diplomatiques. Joe Biden est-il plus va-t-en-guerre que Donald Trump ? Et pour le moment, vous êtes 93%, oui c'est bien ça, à dire oui. On va directement au 0826-300-300. Bah tiens, on était à Mont-de-Marsan avec Abdellah, qu'on reste dans le sud-ouest, mais un peu plus à l'est. Direction Toulouse. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors pour vous, est-ce que Biden est plus va-t-en-guerre que Trump ?
Je vais être un peu cash. Je crois que l'homme politique, en vieillissant, s'impatiente. Et si cet homme rêve de pouvoir présidentiel depuis toujours, alors là, évidemment, il satisfait un manque en exacerbant son autorité par une déclaration de guerre à la Syrie, ni plus ni moins. Et si je devais mettre côte à côte Trump, qui avait quasiment le même âge avec Biden, je dirais que Trump est au théâtre ce que Biden est à la réalité. Pour moi, je pense que Biden, je ne sais pas si c'est lui qui commande derrière, puisqu'on a toujours dit que depuis qu'il est élu, il avait, je crois, sa vice-présidente, hein, me semble-t-il.
Kamala Harris.
Voilà, qui gère plus ou moins les affaires. Donc, je ne sais pas qui décide. Et là, c'est un peu la question qu'il va falloir peut-être élucider, parce que si c'est elle qui décide, en effet, elle est beaucoup plus jeune, et elle peut peut-être avoir une vision très différente, puisqu'elle a 30 ans devant elle par rapport à Biden, qui a 78 ans. Donc, je pense que ça peut être dangereux, comme ça peut être une façon de voir les choses. Bon, moi, je vois pas en quoi il attaque aujourd'hui, alors que la situation reste inchangée depuis quelques mois. Hein. Moi, je n'ai pas vu dans les médias
de gros changements en Syrie.
Non, de gros changements en Syrie. Alors, est-ce qu'après, c'est pour montrer son autorité ? Ça se peut aussi. C'est juste peut-être pour marquer son arrivée, un petit peu comme n'importe quel homme politique qui marque ses premiers pas.
Comme vous êtes de Toulouse, un premier gros plaquage d'entrée pour montrer qui est le chef sur le terrain. Merci beaucoup, Pierre de Toulouse. Caroline Pilas, on nous disait, non, parce que tout à l'heure on est fait dans l'autre sens, on nous disait que Trump c'était le faucon et Biden la colombe. La colombe a peut-être pas les ailes si blanches que ça.
Mais de toute manière, que ce soit Biden ou un autre, ils voudront toujours défendre leur pays. Quoi qu'il en soit, Biden a 50 ans de politique derrière lui, donc même s'il a sa vice-présidente qui peut jouer un rôle important dans sa présidence, c'est lui qui décidera en première ligne à l'arrivée. Il ne faut pas le prendre pour un benêt hein, sur cette question. Et il avait dit qu'il voulait mettre fin à la guerre, sauf si les intérêts américains était évidemment impacté. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La diplomatie est en train de revenir sur le devant de la scène, puisqu'il a aussi fait une annonce en expliquant que le flirt avec les dictateurs tels Poutine et Kim Jong-un en Corée du Nord serait terminé. Donc là, il a riposté et on ne peut pas lui en vouloir de défendre ses droits.
Philippe Bilger, et les flirts avec les dictateurs sont terminés, je cite Caroline Pilastre, manifestement pas avec tous, parce que la monarchie saoudienne n'a pas trop de problèmes avec les États-Unis pour le moment.
Oui, ce que je crois, c'est que il est très difficile de comprendre Biden si on n'examine pas un double ressort psychologique. Le premier, il est classique, il est traditionnel. On succède à un président qu'on avait vanté, paradoxalement, parce qu'il n'était pas belliciste du tout. Il avait retiré les États-Unis au fond de tous les conflits possibles. Et donc, naturellement, Biden veut faire non pas le contraire, mais je pense qu'il s'engagera plus volontiers dans des manifestations un petit peu de ce type. Et deuxième élément, et je crois que Caroline l'a dit, ou notre auditeur, plutôt Pierre, on a tellement fait le reproche anticipé à Biden d'être un mou, d'être un velléitaire, d'être quelqu'un gouverné par une sorte de camarilla trop frileuse et trop faible, et notamment son secrétaire d'État qui pourtant est très équilibré, que je crois qu'il aura tout le temps la tentation, mais j'espère qu'il la dominera à un certain moment, de démontrer qu'il n'est pas faible. Et parfois, on veut démontrer qu'on n'est pas faible par un excès de force. Et ça peut être très dangereux.
Caroline Grima.
Oui, alors moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et j'y ajouterai un élément supplémentaire qui n'est pas une découverte, c'est que indépendamment des administrations qui se sont succédées, il y a un point commun à toutes, alors qui est plus ou moins marqué, mais c'est cette volonté depuis des décennies d'affirmer l'hégémonie américaine sur la scène internationale. Et au-delà des promesses et des petites remarques et des petites piques idéologiques et surtout électoralistes auxquelles on avait pu constater lorsque les démocrates eux-mêmes critiquaient secrétaire d'État, celle qui aujourd'hui est devenue la vice-présidente, n'avait pas de mots assez durs pour critiquer les initiatives, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes en Syrie, aujourd'hui reprennent le flambeau de cette volonté hégémonique. Et il faut vraiment être d'un angélisme abouti. Il fallait être d'un angélisme abouti pour penser qu'on allait basculer dans une espèce de monde de bisounours.
Biden, c'était Mère Teresa.
Évidemment que non. Il a lui-même affirmé au moment de son élection, nous allons enfin pouvoir reprendre le leadership international.
Et puis c'est le vice-président d'Obama. Oui. Et il a comblé son cabinet, juste pour terminer, avec des pro-guerre sous Obama. Donc il y a un mix de tout ça. Il ne faut pas les prendre pour des anges. Hein.
Verdict sur Twitter. Vous êtes 93% à penser que Biden va être plus va-t-en-guerre que Trump. Et il y a quand même une info importante, c'est que un document va être déclassifié, un rapport américain sur les rapports avec Mohamed Ben Salman. Il faut rappeler quand même Khashoggi, découpé dans le consulat d'Arabie Saoudite à Ankara. Il va peut-être y avoir des choses rock'n'roll qui vont sortir. C'est les vraies voix. 17h50 dans 3 secondes. On se retrouve dans quelques instants.
Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et le duo de Caroline Grima et Caroline Pilastre. Et c'est l'heure des rois de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Et Jean-Marie Bordry est là, trompette à la main et chat sous le bras.
Exactement, chat sous le bras. Et on retrouve tout de suite Jacques qui nous appelle au 0826-300-300. Salut à vous Jacques.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Sur Sud Radio, vous nous appelez du côté d'Avignon. Exactement. Je vais vous proposer, mon cher Jacques, pour commencer, de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Caroline Grima, Caroline Pilastre ou Philippe
Bilger.
Voilà
la première, Caroline, voilà.
Caroline Grima, on est
Grima,
d'accord ?
Voilà, bonsoir.
Avec plaisir.
Allez, on commence. Alors, Philippe David vous l'a dit, c'est le triste anniversaire de la disparition de Fernandel. Je vais vous poser trois questions, une sur Fernandel notamment. Vous répondez en premier, si vous vous trompez, c'est pas grave, les trois vraies voix se battent. Et ensuite, on voit qui a gagné. On y va, mon cher Jacques, je commence. Philippe David vous l'a dit, c'est l'anniversaire de la disparition de Fernandel. Je vais vous faire écouter un autre extrait d'un autre de ses films dans lequel Fernandel est instituteur. Il fait une dictée à l'un de ses élèves. Cette dictée commence par « Des moutons étaient en sûreté dans un parc ».
Des moutons ? Oh, voyons, mon enfant, faites un effort. Était un, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Moutons, il y a plusieurs moutons, Jacques. On n'oublie pas le S. C'était quel film ? Ça vous dit quelque chose ou pas ?
Oui, mais je me rappelle pas. Oui.
Alors, je vais vous donner trois possibilités.
Je l'ai vu parce que.
Je vous donne trois possibilités. Réponse numéro 1, Knock. Réponse numéro 2, Topaz. Réponse numéro 3, Le Corbeau.
Je crois que c'était pas Topaz.
Le 2, la 2.
Ouais. C'est Topaz. Jacques l'a dit en bravo, premier. Jacques. Bah oui. Bravo. Topaz la de deux. Marcel Pagnol. Exactement. C'était en 1951, ce film avec la scène de la dictée. Vous avez un point. On continue. Poésie, mon cher Jacques, c'est un autre anniversaire. Nous sommes le 26 février, l'anniversaire de la naissance, cette fois-ci, de l'un des plus grands poètes français, qui a écrit notamment ces quelques vers. Je vous les lis. Soudain, joyeux, il dit Grouchy, c'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. Qui est l'auteur de ces vers ?
On va prendre un point, Jacques, c'est Victor Hugo.
Très bien.
Ah, allez, hop, un point dans l'escarpelle.
Caroline, ah non, on n'a même pas eu le temps de répondre. C'est scandaleux.
Ah non, mais là, je ne pouvais pas résister, Philippe.
Comment s'appelait ce poème ? Comment s'appelait ce poème, les amis?
Moi, j'étais tellement sûre de ma réponse.
Waterloo, morne pleine.
Non, c'est pas le nom de ce poème. C'est un piège, je le croyais aussi.
Vous venez de le lire, Jean-Marie, alors arrêtez de nous faire languir.
L'expiation. Vous expirez, vous aussi, un jour, mon cher Philippe Bilger. Deux points pour Jacques.
C'est sympathique.
Tous les soirs, je le fais, d'ailleurs. Tous les soirs, je suis grugé.
Tous les soirs, vous vous faites gruger, effectivement. Fallait pas
Sauf
attendre
le mercredi où c'est Françoise qui l'est.
Il ne fallait pas attendre Grouchy pour vous en sortir, mon cher Philippe Bilger. On continue avec Jacques qui a d'ores et déjà gagné.
Bah,
On va revenir sur des questions un petit peu plus, j'allais dire, râle et pâquerette, en tout cas. Je vous emmène en Alsace. C'est quand même cher à Philippe Bilger. C'est dans le Bas-Rhin, mon cher Jacques.
Ouais.
Un homme de 88 ans s'est fait flasher à 181 km/h. Quelle excuse a-t-il tenté de donner aux gendarmes d'après vous? Réponse numéro 1, Jacques, il voulait pas rater le couvre-feu de 18h. Réponse numéro 2, il fonçait à l'hôpital pour l'accouchement de son épouse. Réponse numéro 3, il ne voulait pas rater son rendez-vous vaccin. D'après vous, il a dit quoi?
Mais j'ai pas entendu la... J'ai été coupé, pas entendu la truc.
C'est un octogénaire qui s'est fait flasher à 181 km/h. Qu'est-ce qu'il a sorti comme excuse?
La 3, disait Jacques.
C'est la 3,
oui,
exactement.
Il faut bien que vieillesse se passe, hein.
Il faut bien que vieillesse se passe. Alors, il s'est fait retirer son permis véhicule immobilisé, carton rouge, dit la gendarmerie. Ça s'est passé, Philippe Bilger, corrigez-moi si j'écorche ce nom, à Bischofsheim. Est-ce que je le corrige?
C'était presque bien, Jean-Marie. C'était très bien.
Bischofsheim?
Non, pitié. Jean-Marie, c'était bien mieux. Bischofsheim. Je sais que Philippe David est multilangue, mais tout de même.
Allez, on le renverra à Réchauffonne pour sa part. Merci à vous. En tout cas, mon cher Jacques, bravo à vous.
Bravo, surtout Jacques.
Vous avez gagné 3-0. Restez en ligne du côté d'Avignon. Emmanuel vous reprend au standard de Sud Radio et on va vous envoyer un mug Sud Radio. On vous embrasse, Jacques. Bonne soirée à vous.
Merci et puis continuez comme ça.
Merci.
Je veux dire, c'est la radio que j'écoute le matin. Après, j'écoute plus la radio parce que ça me déprime.
Jusqu'à 17h. Et vous revenez pour les vraies voix. C'est le plus important en tout cas. Merci à vous, Jacques d'Avignon, et bravo
pour ce 3-0 à 18h30. Notre grand débat, le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés? Vous voulez réagir? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et les vraies voix sont décidément en mode 50 ans plus tôt, puisque, outre la disparition de Fernandel, une célèbre chanteuse est née le 26 février 1971, Hélène Ségara, qui fête donc ses 50 ans. Et les vraies voix ont toutes quelque chose d'Hélène Ségara, à qui on souhaite un bon anniversaire. Philippe Bilger a un bel organe, il sait en jouer, tout comme sa femme Pascal. C'est pourquoi les voisins les entendent régulièrement chanter cette chanson.
Je vais pour elle jour après jour, quand ses accords en moi
se fondent.
C'est ma plus belle histoire d'amour, un pognon que non fait mal malé.
So mi fa girare di città in città.
Beau duo, Philippe.
Oui, mais alors, mon cher Philippe, je ne veux plus entendre dorénavant que je parle tout le temps de mon épouse, puisque c'est les autres qui en parlent.
Hein. Mais Pascal, c'est un peu l'arlésienne. On en parle tout le temps et on ne la voit jamais, à notre grand regret d'ailleurs.
Alors on se moque de moi parce que prétendument j'en parle tout le temps, mais les autres sont tellement fascinés par le fait que je n'en parle pas qu'ils en parlent.
Caroline Pilastre aurait pu jouer Esmeralda dans Notre-Dame de Paris.
Jolie, merci.
Logique, puisqu'elle respire tant la joie de vivre.
Vas-y, Caro. Moi je danse, hein, toi tu chantes.
Ça vous va, ma chère Caroline? Ah bah allez-y, on doit, allez-y.
Donner sans rien attendre en retour.
Bon, moi je pense qu'il va falloir faire la chorale de Sud Radio.
Mais est-ce que vous vous retournez comme dans The Voice? La question est là.
C'est un message subliminal à Yvan Cugius qui fait une excellente émission de musique tous les soirs à 20h.
Oui.
Qui s'appelle Le Loft, et à notre directeur d'antenne Bruno Dubois, notre directeur général Patrick Roger, je pense que les choristes version Sud Radio, il faut que ça se passe. Quant à Caroline Grima.
Les Carolinettes.
Les Carolinettes.
C'est mignon.
Quant à Caroline Grima, notre avocate de chic et de choc, Elle rappelle toujours à ses clients qui ont une fâcheuse tendance à revenir trop souvent devant les juges qu'elle n'a pas la mémoire courte. Elle leur dit en clair, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Ça vous va, Caroline ? Vous êtes plutôt Laura Pausini ou Hélène Segarra ?
Il faudrait déjà que je maîtrise l'italien.
Oui, oh, mais vous en êtes capable.
Oui, bon. De temps en temps.
La Solitudine est une belle chanson.
Oui. Très belle chanson, absolument. Ça, c'était
et elle,
Laura
tu l'aimes. Ah oui, pour elle, vous, messieurs les Philippe.
Ah oui. Philippe, vous aussi ?
Pardon, j'étais en train de penser. Je n'ai pas écouté.
Nous vous réveillons, Philippe.
Parlait de la chanson.
Non, pas
elle,
du tout.
Parlait de la chanson Elle, tu l'aimes de Hélène Segarra. Elle vous plaît, cette chanson ?
Je connais. Allez, oui, la chanson me plaît beaucoup, mais je connais très peu Hélène Segarra, sauf dans la chanson de Notre-Dame, là.
Esmeralda. Oui,
qui s'appelle Ivre Esmeralda.
Esmeralda.
Et Jean-Marie oui, Bordré, au roi de l'info, au clin d'œil aux réseaux sociaux, Jamel Alaria.
Il n'est pas Quasimodo, lui.
Ah non, pas du tout, mais Jamel est très beau, comme Jean-Marie Bordré et comme Manu au standard, il n'y a pas de problème. À 18h30, notre débat, notre grand débat, le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés ? Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix, cette première heure, vous êtes encore chaud là, c'est bon.
Ah bah là, on elle a un était petit peu parfaite chanté, cette en plus, première voix.
Et en plus,
agréable,
on a commencé avec Hélène
Segarra. Ce petit duo des Carolines,
c'était très agréable. Pas le temps passé, c'est même frustrant.
Les Carolinettes, j'ai senti le message subliminal de Philippe Bilger qui aimerait vous voir vêtu comme les Claudettes. Je ne dis ça, je ne dis rien.
Lui qui me comprend, franchement. Il n'y a que lui qui me comprend. Vous auriez été mignonne. La prochaine fois que je viens, je veux le voir.
Ça dépend, est-ce que Caro est d'accord ?
Je vais réfléchir.
Voilà, tu me donneras ta réponse. On verra si on fait le binôme.
Voilà.
Bon, dans ces cas-là, je viens animer l'émission. Il y a aucun
peut-être
problème.
Un petit moyen de chantage là qui est en train de se dessiner. On va peut-être en profiter.
Tu es avocate, c'est parfait. Allez, pour les contrats.
Vous êtes prêts pour un nouveau tour de table de l'actualité ?
Oui.
Eh bien,
absolument.
C'est parti.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
Vous voulez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end ?
Mais non ! Qu'est-ce qui est petit et marron ?
Je sais même plus.
Un marron.
Le tour de table.
De l'actualité.
C'est la chanson préférée de Philippe Bilger, parce qu'il va nous parler.
La musique est belle.
Ah oui, une musique française, c'était Eugène Potier qui l'avait écrite à la fin du 19e siècle. Et vous voulez parler d'un livre qui fait le parallèle entre communisme et libéralisme, mon cher Philippe Bilger.
Oui. Alors pardon mon cher Philippe et mes deux Caroline d'élever brutalement le niveau de l'émission.
C'est charmant.
En parlant en effet d'un livre d'un professeur de philosophie qui est un ancien ministre de l'éducation en Pologne et qui a été député européen, pardon pour la prononciation, Ryszard Anthony Legutko, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le diable dans la démocratie », qui en effet, comme vient de le dire Philippe, fait un parallèle entre les régimes autoritaires et le libéralisme. Mais dans la mesure où il a connu les deux, lui en Pologne, il distingue paradoxalement un certain nombre de similitudes entre ces deux régimes apparemment différents, notamment le culte du progrès, la volonté d'émancipation et le sens de l'histoire. Évidemment, ça peut apparaître comme un paradoxe, mais j'ai trouvé cet aperçu assez intéressant et le soumettre à votre attention me comble de joie dans la mesure où ça renvoie il y a des années à l'impression désagréable qu'avait ressenti Solzhenitsyn, évidemment un génie absolu, lorsque quittant le régime soviétique, il avait retrouvé une forme de libéralisme qui, lui, l'avait dégoûté par son débridement, ses plaisirs, ses facilités. Ça n'est pas tout à fait les mêmes parallèles, mais je voulais nourrir le débat qui va être remarquable puisque je ne vais plus y participer.
La la suite va naturellement à la Caroline Grima, qui est d'origine polonaise et qui pourra vous prononcer parfaitement le nom de l'auteur.
Oui, Philippe Bilger. Il faudrait que je puisse le lire pour vous le prononcer. Non, mais au-delà de cette petite anecdote, je trouve que ce sujet est extrêmement intéressant et je serais curieuse effectivement de lire ce livre pour voir à quel point le parallèle peut être fait. J'ai souvenir pour ma part d'avoir visité la Pologne à mon tout jeune âge pendant la période du communiste. Début du mouvement Solidarność et notamment
Donc c'était encore le communisme.
Voilà, et notamment un passage à Varsovie qui avait été extrêmement marquant pour moi. Et je pense que le parallèle est loin d'être paradoxal et particulièrement à une époque où nous arrivons dans une espèce de libéralisme extrêmement abouti et abouti à tel point que, on va en parler tout à l'heure, on finit par parvenir à un ultra-contrôle de tous via ce phénomène de progrès qu'a évoqué Philippe et qui est manifestement évoqué dans ce livre, un ultra-contrôle de tous à travers ce que l'on consomme, nos habitudes d'achat, nos habitudes télévisuelles, les réseaux sociaux, etc. Et finalement, la boucle est bouclée et on revient à un phénomène de contrôle absolu de nos vies individuelles et c'est très très intéressant ce parallèle. Je prendrai les références de ce livre parce que je pense
Caroline Grima, il y avait un sketch des Guignols il y a quelques années avec deux commandants Sylvestre en version homme d'affaires qui disait le communisme c'était bien, il suffisait de privatiser. Mais est-ce qu'aujourd'hui finalement avec le néolibéralisme,
c'est-à-dire
avec les grosses multinationales qui sont beaucoup plus puissantes que les États, on n'est pas dans une version du communisme privatisé, si je résume la pensée de Philippe Bilger et de Caroline Grima?
Avec tout de même une énorme différence, mais Caroline a déjà anticipé notre dernier débat et là-dessus je crois qu'il y a, l'auteur ne parle pas de cette immense différence qui est tout de même une forme de liberté entre le totalitarisme et la démocratie libérale. Il y a peut-être de la part de celle-ci une sorte d'enfermement subtil il me semble que ça n'a rien à voir avec le totalitarisme de l'enfermement.
C'est évident.
Caroline,
c'est un sujet passionnant et c'est vrai qu'on peut transposer à ce qu'on vit, alors différemment de ce que l'histoire a montré et démontré aussi précédemment. Mais c'est vrai que par rapport à la liberté de pensée, d'expression, il y a plein de choses en termes vraiment de sujets actuels qu'on pourrait projeter vraiment de cette période à chez nous et ne serait-ce que des comportements de personnes extrémistes qui voudraient revenir aussi à cette période sur certains aspects et ce qui est assez effrayant. Et justement, je ne fais pas trop de teasing par rapport au grand débat. Voilà, mais on peut faire effectivement des parallèles entre les deux.
Justement, on va en parler dans ce grand débat à 18h30, mais dans quelques instants, on va parler rugby. Je sais notamment que votre ami, ma chère Caroline, est un grand fan de rugby. On le salue, Romain, parce qu'on va prendre la direction de la région Occitanie aujourd'hui. A été décidé le calendrier de la Coupe du Monde 2023 et croyez-moi, ça commence par du très lourd avec un France-All Black en match d'ouverture. On sera en compagnie de Kamel Chibli, vice-président en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports de la région Occitanie. Bon allez, on enfile les crampons, les protège-dents, le short, les chaussettes et le maillot et c'est parti.
Quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et oui, on va parler rugby puisque c'est aujourd'hui qu'était décidé le calendrier de la Coupe du Monde 2023 qui se jouera, vous le savez, en France. Ça s'est passé à Toulouse, capitale du rugby en France, et Sud Radio étant la radio du rugby, il fallait absolument en parler dans les vraies voix. Nous sommes en compagnie de Kamel Chibli, vice-président en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports à la région Occitanie. Kamel Chibli, bonsoir.
Bonsoir à vous, merci de l'invitation, merci de ce moment à Sud Radio.
Avec plaisir, bienvenue sur Sud Radio. Alors, excusez-moi, mais les All Blacks d'entrée, on peut dire qu'on commence par le plat de résistance avec double garniture, sans apéritif, ni amuse-bouche, ni entrée, là.
Exactement, on a ce qu'on appelle du gésier en entrée, du foie gras, on enchaîne avec du confit de canard, Et on termine, je sais pas moi, pour les amis catalans, une crème catalane. Allez, c'est parti.
Ah bah c'est parti.
Quel menu parfait.
Ah, le menu parfait, c'est un menu diététique, on va dire. Non,
c'est un menu du sud-ouest, oui.
Exactement. Mais écoutez, c'est ce qu'on appelle les produits en Occitanie. Comme le rugby est une grande richesse, les produits aussi, non, mais on est super content pour plusieurs raisons. D'abord, parce que bien sûr que la région Occitanie, c'est finalement, vous le savez, la région du rugby par excellence.
Oui.
L'équipe de France, la moitié des joueurs viennent de la région Occitanie. Et puis bien sûr, avec ses grands clubs professionnels, et puis ses 400 clubs amateurs avec 80 000 licenciés, ben forcément, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, parce que on a le plus petit stade de France, il faut quand même le dire.
Oui.
Et malgré ça, la Fédération française et Claude Haché, qui je remercie vraiment, ont voulu considérer qu'il fallait que cet événement, mais quelque part, il soit aussi une récompense pour des milliers de passionnés de rugby dans notre belle région Occitanie, et bien sûr en terre catalane. Donc forcément, c'est un grand moment. Et puis le Japon, vous savez, on est parti nous au Japon avec la présidente de la région, Carole Elga, pour essayer de travailler sur un partenariat. Il faut imaginer que 30 000 Japonais vont faire le déplacement en 2023. Vous connaissez le Japon, c'est quand même peu loin, et puis oui. Vous imaginez qu'il reste sur un talon, et puis il ne faut pas oublier la question du rayonnement, la question de la consommation, et puis vous savez, c'est un public chaleureux, un public qui dépense aussi de l'argent, c'est pas neutre pour nos restaurants qui sont actuellement fermés, mais qui on espère vont réouvrir prochainement, et puis vous savez, quand on est la région, on a le petit Duport, le petit Ntamak, les Thomas Ramos, les Marchands, les Bailles, bon, forcément,
absolument.
Ces jeunes-là seront a priori, on l'espère, s'il leur arriverait, croise les doigts, au rendez-vous en 2023, et puis on souhaite tous, et vous-même comme moi, qu'on puisse ramener cette magnifique coupe. Alors, ça, c'est important.
Justement, Kamel Chibli, vous avez parlé des joueurs actuels mythiques de la région Occitanie. Vous vous rappelez, à une époque, il y a même une première ligne, 100% Bigourda, Narmari, Dintran, Garouet. Je vais donner la parole au pilier des vraies voix, Philippe Bilger. D'ailleurs, je tiens à teaser, on osait investir dimanche Philippe Dintran, l'ancien talonneur de l'équipe de France, qui va nous parler de sa reconversion. Philippe Dintran qui nous a dit que le talonneur qu'il craignait le plus de sa carrière, c'était Philippe Bilger. Je vous donne la parole, Philippe.
Non, soyons sérieux. Monsieur le Président, je vais vous poser une question, parce que si je la posais à Philippe David, il aurait l'impression qu'il sait répondre à tout. Donc je préfère vous la poser.
Mais lui, il peut.
Oui, mais je préfère vous la poser parce que c'est une question technique. Le fait, imaginons, donc ce premier match a lieu, la France perd ou les All Blacks, ça n'interdit pas ces deux équipes de pouvoir se retrouver en finale, je ne me trompe pas.
Exactement, c'est d'ailleurs le pourquoi, dès le départ, quand on a vu le tirage au sort, on s'est dit, tout le monde imaginait ce rêve de retrouver cette finale qui est possible quand on aura de le calendrier, France, All Black, bien évidemment, au Stade de France. D'accord. D'ailleurs, le premier match est au Stade de France. On peut imaginer que le dernier de la compétition soit aussi au Stade de France entre les deux équipes. C'est pas impossible, vous avez raison. Elle n'est pas très technique.
Donc c'est possible, absolument.
C'est tout à fait possible, tout à fait possible.
Kamel Chibli, vous avez eu le pilier des vraies voix. On va vous envoyer les trois Carrel, là, les deux Carolines.
Si vous me voyez physiquement, j'ai un profil de pilier ou de deuxième ligne.
Mais ça va, vous n'allez pas leur mettre un caramel, donc c'est parfait.
Pas du tout. Je les protégerai, moi, je suis le protecteur, moi. Il n'y a pas de problème. Mais
Caroline Grima, on sait que votre compagnon est un fan de rugby absolu.
J'essaye de suivre. Je fais des efforts. Et puis alors, moi, j'ai vraiment un gros faible pour Antoine Dupont.
Ah, quel joueur. Pour moi.
Il est fabuleux.
J'ai cru que c'était pour moi, d'accord. Ouais.
Non, écoutez, les trois carrels, c'est plus les demi-mêlés que les piliers. C'est vrai que Dupont, il est sensationnel.
Voilà, je le trouve
incroyable. Pour dire Caroline, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, en plus d'être un type fabuleux sur le terrain,
sympa,
humainement, hein. Je peux vous garantir, et ça fait plaisir de voir ces sportifs de haut niveau, il est originaire des Hautes-Pyrénées,
oui.
Pas loin du Gers. Ce garçon, il va reprendre un projet pour reprendre le restaurant familial depuis un siècle. C'est un garçon d'une humilité, d'une modestie incroyable.
C'est formidable.
Et en plus, si vous le connaissez humainement, voilà, on se régale de travailler avec des jeunes comme ça qui incarnent finalement l'avenir.
On a besoin de ces figures-là.
Exactement.
J'avais vu un très beau reportage sur lui avec ses parents.
Oui.
Il était très très bien.
Caroline Pilastre, vous le rugby, vous aimez ça ?
Alors, quant à moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais je n'y connais rien. Je suis totalement néophyte. J'adore l'accent chantant de monsieur, et je fais une spéciale dédicace à l'Occitanie, parce que c'est ma région de cœur et d'adoption. J'ai vécu 10 ans à Montpellier. Donc voilà, vous avez mon total soutien, et quand ce sera possible, je reviendrai vous voir avec plaisir.
Je salue un pote de Montpellier dont le nom va vous dire quelque chose dans le rugby, Guillaume Guirado. Kamel Chibli.
Guillaume, mon ami Guillaume, le plus catalan de Montpellier.
Je suis plus foot, moi,
absolument.
Et en plus, il est originaire de Céret comme Martin Fourcade, donc vous
absolument,
imaginez.
Absolument, dans les Pyrénées orientales.
Mais et honnêtement, vous êtes à la bienvenue en Occitanie, c'est la terre du rugby, mais aussi la terre chaleureuse d'accueil.
Je
et
sais bien.
Comme vous savez,
vous êtes je reviendrai avec
vous
plaisir.
Êtes beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop doués tous en géographie. Moi, je suis
vous vous rappelez plus que la fusion, on appelle la région Occitanie maintenant, qui part du Gard jusqu'aux Hautes-Pyrénées.
Oui.
Ouais, absolument.
Vous passez de Montpellier à l'Occitanie serré et tout ça.
Non, Philippe, c'est pas collé serré, c'est serré, C-E-R-E-T.
Vous pouvez aller déposer un cierge à Lourdes et puis finir au viaduc de Millau en passant par le pont du Gard. Donc c'est ça la région.
Absolument. Alors, franchement, Kamel Chibli, on rêve avec la génération qu'on a. On l'a dit, Dupont, Ramos, Ntamack, Bay, Cross. Désolé, j'ai cité que des Toulousains, je sais pas. Allez, on va en citer d'autres. Évidemment, Jalibert, Awas, exactement comme pilier, Marchand. Enfin, on a une super génération, Penaud, Ficou, etc. Ce coup-là, en 2007, c'est pas passé. En 1938, la première Coupe du Monde organisée par la France au football, c'est pas passé. En 98, c'est passé. En 2023, ça passe.
Franchement, je pense que ça peut passer, vraiment. Parce que d'abord, on a une équipe de folie. Qui ont pour ceux qui connaissent pas le rugby, mais pour ceux qui le connaissent, honnêtement, quand on voit le match qu'ils ont fait dernièrement, l'année dernière, c'est un match qu'ils auraient totalement perdu au deuxième mi-temps. Oui. Et là, il y a une espèce de sérénité qu'on n'avait pas forcément. Et le paradoxe, c'est qu'en plus, il y a une espèce de confiance de cette jeune génération qui a vite pris qui a pris à bras le corps cette responsabilité-là. Moi, j'y crois beaucoup. Parce qu'encore une fois, cette génération-là, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a peut-être des milliers de personnes et d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont originaires de nos petits clubs, c'est l'incarnation du monde amateur. C'est ces petits villages. Le rugby de l'équipe de France aujourd'hui, ben, c'est le rugby de village, c'est le rugby du terroir qu'on aime tous. Et dans la période actuelle que l'on traverse, voilà, c'est un peu de boom, c'est un peu d'espoir et c'est un peu de lumière. Et on en a bien besoin. Et je crois que les Français aussi, on en a tous besoin.
Bon, mon cher Kamel Chibli,
un sacré entraîneur, toi.
Absolument, absolument. Fabien Galthié, qui est aussi d'Occitanie. Bon, il y a les All Blacks qui vont jouer à Toulouse. Je pense qu'on pourra aller faire les vraies voix. C'est le 15 septembre 2023 du côté de Toulouse. On réserve les places, Kamel Chibli.
Bah oui, on vous invite. Et surtout les novices. Tu connaisses pas.
Ah ben voilà. Formidable.
L'entrée, le plat et le dessert. Et le café.
Il n'y a qu'à le faire.
Et le café, le pousse-café, le pousse-tisane.
Exactement. Et puis la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, c'est qu'en plus, nous aurons un match de préparation qui n'est pas neutre entre la France et le Japon en 2022. Et on va faire une très très belle fête, une grande cérémonie pendant une semaine. On va célébrer le rugby. Vous savez, recevoir le Japon et les Fidji à Toulouse. Vous connaissez le jeu à la Toulousaine.
Oui.
C'est quelque part aussi. Un petit clin d'œil à ceux qui adorent jouer au ballon. Vous savez qu'on évite maintenant les percussions, les contacts. Et là, c'est un jeu d'évitement. Et j'espère en tout cas que vous serez tous présents.
Merci beaucoup, Kamel Chibli. Comme on dit, jeu de main, jeu de Toulousain. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Dans quelques instants, notre grand débat. Le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés? Eh bien, vous êtes 90% à dire oui. Restez bien avec les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare.
Ah, Serge Reggiani, après Serge Lama, tout à l'heure, toujours plein d'à-propos, Jamel, notre réalisateur, pour les choix des chansons. En démocratie, on ne peut pas lutter contre une épidémie à n'importe quel prix. C'est une tribune publiée par le Figaro Vox. 24 intellectuels l'ont signée. Selon eux, au prétexte de lutter contre le Covid, l'État remet en cause nos libertés individuelles. Un mal, selon eux, plus grand que le mal causé par l'épidémie elle-même. Nos dirigeants ont importé le modèle chinois sans même s'en rendre compte. Voilà en substance ce que dit cette tribune. Qu'en pensez-vous? Le 0826-300-300, le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés? Et vous êtes 91% à dire oui. Avec nous, Laurent Papy, analyste au sein de l'IREF, qui a signé cette tribune. Laurent Papy, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré lundi devant le Conseil des droits de l'homme dans son discours annuel, et je cite, « Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. » C'est lui qui vous a servi de lanceur d'alerte ?
Alors, le lanceur d'alerte, pardon, c'est d'abord le constat que en France, dans de nombreux pays européens, on a importé en grande partie le modèle chinois et l'approche chinoise n'est pas du tout un modèle de liberté. Aujourd'hui, on observe, et beaucoup d'indicateurs le montrent, un recul massif des libertés dans de nombreux pays. Alors le tableau noir que vous avez dressé, bien entendu, il diverge entre les pays et certains pays ont une situation beaucoup plus catastrophique que la nôtre. Néanmoins, on est dans une situation aujourd'hui où on a créé un précédent et on n'a pas forcément bien conscience de ça, d'un précédent qui va probablement rester indélébile dans les limites que l'on avait pour habitude d'avoir depuis la Seconde Guerre mondiale entre ce que l'État se permet de faire et d'ingérer dans nos vies. Et ces limites aujourd'hui ont volé en éclats depuis mars dernier, parce qu'on a pris en grande partie le modèle chinois comme modèle.
Caroline, on va lancer le débat. Caroline Pilastre, est-ce que quelque part on n'a pas beaucoup rogné sur nos libertés depuis maintenant un an ?
Je ne remets absolument pas en question la pandémie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a émis beaucoup de mensonges avec beaucoup de certitude depuis le début de cette crise. Quand vous entendiez des médecins sur les plateaux de télé vous dire tout et son contraire, ainsi que les politiques, rappelez-vous Madame Sibeth Ndiaye qui ne savait pas porter le masque, Monsieur Véran qui vous disait que le masque était inutile, plus les sachants, je mets ça entre guillemets parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté méprisant aussi. Oui, bien sûr qu'il y a un problème avec nos libertés individuelles depuis près d'un an. Et ça devient insupportable ce stop and go parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir une fois de plus. Il n'y a pas d'horizon. Vous savez, la crise du Covid peut tuer aussi de manière indirecte. Les mots MAUX, que sont les traumatismes psychiques et liés au chômage, sont aussi des morts, des assassinats. Quelle que soit la forme que ça va prendre, quand vous entendez les études qui sont faites auprès des étudiants, auprès des personnes âgées, sans rappeler les indépendants, les commerçants, les artisans, moi je m'inquiète véritablement parce qu'on n'en voit pas la fin.
Et on ne les compte pas dans les victimes du Covid, malheureusement, il y a eu des suicides de restaurateurs, etc. Laurent Papy, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Caroline Pilastre sur le fait qu'on ait rogné nos libertés individuelles ?
Oui, alors ça c'est indiscutable, hein. Le pouvoir qui a été on peut véritablement parler d'autocratie sanitaire dans la mesure où le pouvoir a été extrêmement concentré dans ces fameux conseils
de défense
qui sont tant décriés notamment par de nombreux constitutionnalistes. Aujourd'hui, on est dans une situation où là où je partage ce que vient de dire l'autre intervenante, c'est que on est face à une pandémie qui est grave et que je ne voudrais surtout pas prendre à la légère. Non, on est face à une pandémie qui aujourd'hui, et ça fait un an qu'on la vit, les conséquences des mesures liberticides qui ont été prises ont aussi des effets dévastateurs, hein, qu'ils soient psychologiques, la pauvreté tue aussi. On prend une récession
inédite. La solitude aussi.
Exactement, on prend une récession inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et non seulement il y a une idée de comparer, il faut aujourd'hui personne ne peut dire que les années d'espérance de vie qu'on gagne en confinant sont compensées par les pertes d'années d'espérance de vie liées à cette pauvreté là qui va émerger ou à d'autres problèmes. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait de dire est-ce que une vie longue et isolée vaut-elle mieux qu'une vie qui risque, donc il y a un risque d'être raccourci, mais plus épanoui. On l'a vu à Noël, les aînés qui réclamaient que leurs petits-enfants viennent à Noël. Je suis sûr que tout un tas d'auditeurs partagent cette situation qui était un dilemme, qui était très difficile, mais où il y a eu une responsabilité individuelle de chacun pour prendre des précautions.
On donne la parole à Philippe Bilger, très court.
Oui.
Je donne la parole à Philippe Bilger pour échanger. Philippe Bilger.
Alors là encore, je et Laurent Papy ne croyait pas que je le dis avec arrogance. Je ne suis pas totalement d'accord et pas plus avec Caroline qu'avec vous-même. Caroline n'a pas pointé le caractère liberticide. Elle a évoqué la mauvaise gestion du sanitaire. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce que vous dénoncez dans cette tribune. Moi, ce qui me gêne, c'est que vous vous avez l'air de présumer que le dessein liberticide existait à la base de cette politique sanitaire. J'admets bien volontiers qu'elle a pu être discutable, erratique, imprévoyante, lacunaire, mais je ne crois pas qu'à aucun moment on ne puisse lui prêter un dessein liberticide. D'ailleurs, le terme liberticide est très clairement offensant pour une démocratie qui s'affronte de manière dure, difficile, encore une fois maladroite, aléatoire, à un fléau imprévisible contre lequel elle tente de lutter. Alors bien sûr, il y a des réductions de nos libertés, mais le fait d'avoir dû les réduire en parfaite bonne foi, même si on peut lui prêter à ce pouvoir des desseins maladroits, change radicalement du point de vue que vous semblez adopter, qui laisse penser qu'il y a une entreprise liberticide qui a profité de ce fléau pour se mettre en branle. C'est cela que je conteste.
Laurent Papy.
Ouais, non, la tribune ne dit pas qu'il y a un dessein liberticide. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que l'approche qui a été menée, et dans d'autres pays, ça a été beaucoup plus, l'approche était plus libérale. Mais l'approche qui a été menée en France, elle est fondamentalement liberticide. On n'a jamais interrogé les parlements, le Parlement, les contre-pouvoirs avant de prendre des mesures drastiques. Et un an après, alors qu'on a du recul, au début on n'avait pas les connaissances, c'était compliqué, mais aujourd'hui on a du recul, on connaît mieux cette maladie et on continue à avoir une gestion autocratique de cette crise sanitaire. Et cette autocratie-là, sans contre-pouvoir, elle est extrêmement dangereuse et elle crée un précédent. Hein, crée un précédent qui, quand on aura d'autres contraintes demain, d'autres crises, on n'aura plus cette limite-là, cette limite constitutionnelle de protection des droits fondamentaux.
Caroline Dumas.
Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par Philippe Bilger. Je pense effectivement qu'il n'y avait pas de dessein liberticide préexistant à cette pandémie dont on aurait profité pour justement le mettre en œuvre. En revanche, là où je me rapproche effectivement des constats qui sont opérés par cette tribune, c'est que je crois que même si ça n'était pas un dessein au départ, force est de constater que nos autorités y prennent goût. Et que ce qui au départ était utilisé effectivement, comme le disait Philippe Bilger, pour permettre de gérer l'urgence et de gérer la problématique de cette crise sanitaire, est en train de devenir un mode de vie et un mode de gestion de nos vies. Et il est vrai d'attirer l'attention, puisque ce sont des choses techniques qu'on ne maîtrise pas forcément, il est intéressant d'attirer l'attention sur les problématiques justement institutionnelles, parlementaires, parce que ça, c'est un point qui est très, très, très important. De même, heureusement, nous avons des garde-fous. Heureusement, nous avons protesté sur ce point. Mais pour parler de quelque chose que je connais mieux, la problématique judiciaire a été une illustration incroyable de ces pertes progressives de liberté, notamment sur la problématique de la présence à l'audience, du débat à l'audience, de la possibilité pour le justiciable de s'exprimer, voire simplement de se rendre à son procès. Enfin, il y a vraiment des choses au quotidien qui sont très impressionnantes, et ce qui l'est encore plus, indépendamment des quelques petites saillies qu'il peut y avoir à droite à gauche de certains qui se mobilisent et qui se rebellent, si on peut dire, c'est l'étonnante docilité de la population par rapport à tout ça.
On va faire réagir Laurent Papy.
Oui, j'irai plus loin que la docilité, c'est que face à cette panique qui est tout à fait compréhensible, hein, face à cette pandémie inédite, on a été beaucoup, et c'était une sorte de dérive collective, à réclamer cela, parce que on n'a plus confiance dans notre responsabilité. Un des corollaires de la liberté, c'est la responsabilité. C'est pour ça que quand on dit liberté, on pense tout de suite à faire ce qu'on veut, aller retourner dans les bars. Enfin, non, le corollaire de la liberté, c'est d'être responsable de ses propres actes. Et ça, on l'a complètement oublié dans le paradigme de cette crise. Et ça va avoir une conséquence indélébile sur nos institutions. C'est pour ça que je suis très inquiet.
Il y a deux Caroline sur le plateau, il y a deux Philippe, et maintenant il va y avoir deux Laurent Papy, puisqu'on a le 0826 300 300, Laurent de Montpellier, ça ne s'invente pas, c'est tout par duo ce soir. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir
Laurent. Alors Laurent, que pensez-vous? Est-ce qu'on a tapé sur nos libertés?
Alors, écoutez, moi je dis non. Alors oui, bien sûr, nous avons tapé sur nos libertés, mais tout ça n'est pas organisé, parce que Monsieur Macron, le spécialiste de la start-up, ne veut pas être le président de prisonniers, vous comprenez ? Les présidents de prisonniers, il en existe, c'est la Corée du Nord. Et ça fait un petit pays. Alors imaginez Emmanuel Macron dans les assemblées internationales, on le verrait arriver. Ah regarde, c'est le président des prisonniers du petit pays. Non, tout ça ne va pas. Donc bien sûr, nous subissons moi-même, je ne suis pas content de cette situation, j'aimerais bien faire plus de choses et être plus libre dans le sens d'aller et venir. Bien sûr. Mais comme les gens ne sont pas dociles, c'est que nous avons peur aussi... Moi, personnellement, je n'ai pas trop peur, mais enfin, je me méfie. Nous avons un peu peur, pour certains et beaucoup pour d'autres, de la maladie, de la mort, quoi, hein, tout simplement.
Alors, mais la majorité d'entre nous, pardon, ne remet absolument pas en question la gravité liée à la Covid. Les morts, les malades avec séquelles. Simplement, actuellement, on a l'impression qu'on joue au yo-yo avec nos vies. Ça, et moi, j'ai la sensation d'être dans une société maoïsée. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on nous confine, on nous reconfine et on n'en voit pas le bout ? Tout simplement parce que la gestion a été extrêmement mauvaise et qu'actuellement, il n'y a pas assez de lits à l'hôpital. Et vous savez que c'est lié à ça ?
Philippe Bilger.
Non. Ni de doses de vaccin.
Et on fait réagir Laurent Papy.
Oui, là où je remercie Laurent Papy de par la réponse qu'il nous fait, il permet de préciser notre pensée en utilisant ce terme présomptueux à l'égard de moi-même. au fond, Laurent Papy, vous avez très bien défini. Au fond, je vous rejoins totalement lorsque vous mettez en cause, je dirais, une sorte d'impérium régalien de solitude présidentielle, notamment avec l'abus des conseils de défense, le sentiment que le Parlement était complètement exclu d'une délibération qui était trop importante pour la lui confier.
Philippe, mais il gère pas seulement le Parlement, le gouvernement aussi. Hein, ça se décide à trois personnes, les conseils de défense. Hein.
Vous avez raison, mon cher Philippe, comme d'habitude. Mais je ne sentais pas, à partir de cet impérium qui a exclu beaucoup d'organes dans la délibération, une chape subtile qui se serait apposée sur la société elle-même, vous voyez, qui aurait apposé sur nos vies un quadrillage, sinon celui qui était rendu nécessaire par la lutte contre un fléau qui a connu des maladresses, des carences, des dysfonctionnements, mais qui encore une fois été justifié par le caractère tout à fait exceptionnel de la lutte.
Laurent Papy, je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit Laurent de Montpellier. Il a dit une chose très intéressante, la peur. Est-ce que quelque part, depuis un an, on ne gère pas un pays, ce pays, par la peur ? La peur de la mort pour une maladie. On avait même le docteur Laurent Saccomano hier qui fait un nombre de morts comme une mauvaise grippe, un nombre de morts infinitésimal par rapport au nombre de personnes contaminées.
Oui, alors c'est pas infinitésimal, hein, ça reste une maladie grave qui tue. Maintenant, sur la
en pourcentage, c'est infinitésimal, c'est moins de 0,05%.
Mais ça fait beaucoup plus d'essais parce que le fléau est imprévisible, est inconnu.
Le pourcentage de décès sur les cas est entre 1 et 2% selon les pays. Hein, donc il est pas du tout infinitésimal. Maintenant, la peur, tout à fait, est quelque chose qui va motiver la prise de décision politique. Mais là, la peur, elle diffère selon les individus. Il y en a qui ont très peur et ils ont le droit d'avoir peur face à la maladie et ils ont le droit de vouloir s'auto-confiner. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils ont d'autres contraintes, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce que leur activité elle est essentielle pour eux, quoi qu'en disent les bureaucrates sur le caractère essentiel ou non d'un commerce. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'avoir peur ou qui ont et l'État ne peut pas répondre à notre place sur le niveau de peur que nous pouvons accepter. De la même manière que ce n'est pas à l'État de déterminer quel est le niveau, ne doit pas décider à notre place les risques que nous sommes prêts à prendre. Quand de nombreuses personnes âgées ont été isolées de force, et là on est vraiment dans des attitudes qui sont propres au modèle chinois, d'isoler des personnes de force et leur interdire de rencontrer leurs proches, ça c'est profondément liberticide, alors que ces personnes, elles ont peut-être que quelques mois à vivre encore, et bien elles préféreraient prendre un risque. En voyant leurs proches. Donc l'État ne peut pas décider à notre place. C'est ça le côté totalitaire de la situation aujourd'hui. Quand on est un an après la crise, on connaît cette maladie, on peut faire confiance aux citoyens pour qu'ils soient responsables eux-mêmes. si on ne fait pas confiance aux citoyens et on continue de gérer cette crise par une case de bureaucrates aussi compétents, aussi brillants soient-ils, on
n'arrivera pas. Merci. On arrive au bout. Merci beaucoup, Laurent Papy, signataire de cette tribune dans le Figaro Vox, que je vous incite à aller lire. Verdict sur Twitter. Vous êtes 91% à dire que le Covid est un prétexte pour réduire nos libertés. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des VV.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Caroline Grima. Et bien sûr, c'est l'œil du clin, le gleur du clin d'œil des Vraies Voix, pardon, avec Jean-Marie Bordry.
L'œil du clin d'œil, écoutez, ouais. Pourquoi pas, c'est un beau concept.
C'est l'œil du clin d'œil.
L'œil du clin d'œil.
Alors que le monde du spectacle est toujours à l'arrêt, le clin d'œil des VV vous emmène à Lautrec. Les Lautrecois sont privés de concert, qu'à cela ne tienne. Le concert viendra chez eux.
Oui, on vous propose des concerts à domicile, dans votre jardin ou alors sous votre balcon, à condition que ce soit dans l'espace privé, bien entendu. Et pourquoi pas de ce chanteur.
Debout dans le métro, sur la tombe de Rimbaud, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te...
Un chanteur lautrécois qui s'appelle Corentin Grélier. Cette chanson que vous entendiez, ça s'appelle « Le doigt dans l'œil ». Il se produira le 6 mars, une initiative du Café Plume. On retrouve tout de suite du côté de Lautrec. Aline Thomas, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la responsable de la programmation du Café Plume à Lautrec. Donc vous vous dites, effectivement, c'est pas possible de proposer des concerts aux Lautrécois. Alors vous leur proposez de réserver une chanson à domicile le 6 mars, c'est ça ?
Voilà, absolument.
Alors du coup, comment ça va se passer ?
Bah écoutez, c'est un petit peu comme se faire livrer une pizza, sauf que là il va s'agir de se faire livrer de la culture. Mmh. Comme vous disiez très justement en introduction, puisque le public ne peut plus venir à nous, c'est nous qui allons aller à eux en emmenant un chanteur dans leur domicile pour leur chanter une chanson originale de son répertoire.
Exactement. D'ailleurs, vous avez parlé de la livraison de pizza. L'opération est inspirée de quelque chose qui est née à Toulouse, une opération qui s'appelle Délivrez-nous, N2O, un peu comme Deliveroo, justement, oui. La livraison de nourriture à domicile. Comment ça se passe pour réserver ?
Alors écoutez, pour réserver, vous pouvez aller sur notre site internet, mais aussi pour les gens qui reçoivent notre newsletter, il y a un lien à l'intérieur de la newsletter, voilà, via Hello Asso, vous réservez, vous payez la chanson, et nous, on s'occupe du reste, c'est-à-dire qu'on se déplace, on vient à vous, et on essaie en amont de vous communiquer un petit peu l'horaire, puisqu'il s'agit de passer dans à peu près 10...
Dans à peu près 10 maisons, j'imagine, au cours de cette journée. Voilà. Effectivement, on est à la campagne, donc c'est important aussi de rappeler qu'il y a beaucoup d'initiatives culturelles assez novatrices, d'ailleurs, dans les zones rurales dans ce pays. Aline Thomas, bon, j'imagine que vous trouvez le temps long quand même. Ça fait combien de temps que vous ne pouvez plus accueillir de public au Café Plume ?
Ça fait longtemps,
effectivement.
On vous entend plus.
Alors, on a un tout petit problème de liaison, apparemment. Manifestement, la liaison téléphonique, mais c'est quand même, il faut le dire, une initiative assez sympathique.
Très belle initiative, absolument.
Et assez utile. D'ailleurs, ça commence à faire boule de neige. C'était parti de Toulouse. Là, on est à Lautrec avec Aline Thomas, qu'on a retrouvé, justement. Et oui. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de continuer à permettre aux acteurs de la culture de donner du plaisir à leur public, quoi.
Voilà, c'est ça, garder du lien avec nos usagers, donner que la culture continue quand même à pouvoir s'exprimer, et c'est pour l'instant c'est la solution qu'on a trouvée, donc on est très heureux de l'avoir trouvée, ça nous redynamise un petit peu, ça nous donne envie, et puis si ma foi cette initiative fonctionne pour la première édition pour cette première livraison, et ben on espère pouvoir en faire d'autres, sur élargir un petit peu le territoire et travailler sur la communauté de communes du Lautrécois.
Oui. Voilà pour ces temps. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres initiatives qui commencent à poindre un peu partout en France, y compris dans la région sud, en Provence-Alpes, Côte d'Azur. La culture qui vient à votre domicile, en tout cas le temps d'une sérénade, ça vous intéresserait, vous, Philippe David ?
Oh, mais bien sûr. Vous savez, il y a un proverbe gascon qui disait « si tu ne vas pas à Lagardère oui. ira à toi voilà. ». Là, si tu ne vas pas à la culture viendra à toi. C'est très sud-ouest,
c'est
ça.
C'est dans le Bossu.
C'est oui. dans le Bossu, absolument.
Pas de Notre-Dame.
Hein. Pas de Notre-Dame, bien entendu. En tout cas,
mais,
on vous souhaite.
Mais oui. Aline, si moi je fais un pari, si vous parvenez à faire venir dans Lautrécois Jean-Jacques Goldman, je me déplace et je viens.
Et
Et il a crié Aline pour qu'elle fasse venir Jean-Jacques Goldman.
Et comme ça,
Je n'ai pas osé la faire.
Et comme ça, vous livrez des chansons à domicile et nous vous livrons Philippe Bilger à votre domicile aussi, à Lautrec. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bon courage. Bravo pour l'initiative, Aline Thomas. Bon courage à toute l'équipe du Café Plume. C'est à Lautrec. On rappelle le site internet pour les Lautrécois qui nous écouteraient sur Sud Radio, qui voudraient réserver. Aline Thomas.
Oui, alors sur le caféplume.org, vous avez notre site internet, voilà, absolument.
Tout facile, caféplume.org, P-L-U-M.
C'est parfait, bravo pour votre initiative, P-L-U-M, pardon, c'est bien, bravo pour votre initiative, Aline Thomas, c'est les vraies voix, et on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine du côté de Chantilly, ville dans l'Oise dotée de 11 000 habitants.
Oui Thomas, nous recevons Julien Heck, responsable de l'agence Orpi à Chantilly.
Bonjour Julien Heck.
Comment se porte le marché immobilier à Chantilly ?
On constate qu'au niveau des acquéreurs, ils sont très présents et dynamiques. Concernant l'offre des biens, là c'est plus faible, ce qui crée vraiment la rareté des produits sur notre secteur.
Et qui pousse la porte de votre agence en temps normal ?
Alors, c'est assez varié, mais principalement familial, des couples qui viennent de la région cantilienne, région parisienne. On a constaté que depuis le premier déconfinement, il y a une hausse de cette clientèle parisienne qui, par le biais du télétravail, leur permet de se de la capitale, d'avoir un accès rapide à Paris parce qu'on est à 25 minutes de la gare du Nord, par la gare de Chantilly, tout en bénéficiant de la proximité de la forêt.
Et quelle est la tendance sur les prix dans votre ville ?
Les prix ont légèrement augmenté sur cette dernière année, de l'ordre de 3 à 5 %. On constate qu'il y a très peu de négociations sur les biens, voire pas du tout. Il y a la rareté des produits. Chantilly et les villes de proximité, on est entre 3 000 et 5 000 euros du mètre carré. Et si on s'éloigne à 10 minutes, on va dire derrière l'Oise, des villes comme Précy-sur-Oise, on est sur des prix entre 2 000 et 3 000 euros du mètre carré.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ?
Alors, oui, bien sûr. Alors, deux choses, on va dire, concernant les vendeurs qui ont un potentiel projet. C'est deux éléments à mettre en place, réaliser une estimation pour se projeter, passer le cap et s'assurer d'un réel accompagnement, ce que demande la Bailleur PI permet d'ailleurs, et pour les acheteurs de rester très réactifs. Il ne faut pas oublier que Chantilly, c'est une ville qui est dans l'évolution continue et donc d'un investissement sécurisé.
Merci Julien Heck d'être passé du côté d'Osez Investir. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'agence Orpi à Chantilly. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci aux vraies voix, merci à Caroline Pilastre, Caroline Grima et Philippe Bilger. De suite, les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. Mon cher Jean-Marie Bordry, vous avez déjà passé la première.
Oui, on a déjà passé la première, on passe la seconde dans un instant avec Pierre Chasseret, justement, de 19h à 20h, toute l'actualité de l'automobile, notamment une astuce pour éviter le vol de voiture. Sachez-le les amis, non, ce n'est pas une fatalité. On parlera aussi des prix du carburant, ils ont retrouvé leur niveau d'avant-Covid. Hein. Vous vouliez revenir au monde avant, malheureusement, vous y êtes. On en parle de 19h à 20h sur Sud Radio.
Et il n'y a jamais de coup de pompe sur Sud Radio. Restez bien avec Jean-Marie Bordré et Pierre Chasseret.